et ça arrive à la fin des jours de l'été. Donc si on rassemble tous ces éléments, on voit qu'apparaît un profil d'identité extrêmement important. Ça veut dire que la tentative de Joseph, c'est l'exil. La tentative de Judas, c'est être Israël. Je reviens brièvement sur ce point dont on lit dans, il y a deux parachutes, mais très brièvement, lorsque Joseph est né, qui commence à rêver de la vocation de l'exil, de diaspora, pour ne pas dire de l'exil, eh bien, les frères étaient déjà adultes dans le pays de Laban, avaient déjà eu l'expérience de ce que c'était que la vocation de l'exil, se mettre au service des troupeaux de Laban, vous rappelez de cela, avaient déjà diagnostiqué qu'il s'agissait d'un échec, et par conséquent avaient déjà fait un bilan définitif. Cette dimension de la messianité propre au patriarche aussi, de se mettre au service de la civilisation extérieure, aboutit à un échec. C'est-à-dire, les frères de Joseph, Judas et ses frères, avaient déjà diagnostiqué cet échec. Et Joseph vient de naître à peine lorsqu'on va quitter l'exil. Il n'en a pas l'expérience. Il recommence cette histoire. C'est clair ? Et c'est pourquoi ils ne le font pas sans jugement, je vous rappelle. Par conséquent, la tentative de Joseph, pour elle-même, c'est la diaspora. La tentative de Judas, pour elle-même, c'est Israël. Et puis finalement, apparaît l'identité de Benjamin, qui précisément est définie à sa naissance même comme étant celui qui doit mettre fin à la tentative de Joseph pour rejoindre la tentative de Joseph. C'est donc le premier thème tel qu'il nous apparaît. Et je crois que le diagnostic de cette identité Benjamin dans le temps contemporain est très facile à faire, en tout cas est important à faire, puisque effectivement la génération de notre temps qui a mis fin à l'histoire de la diaspora, cette histoire de la diaspora qui devenait de plus en plus l'histoire de Joseph en Égypte, se mettre au service de l'humanisme extérieur contemporain, ce diagnostic que Joseph a fait, le Joseph de notre temps, c'est-à-dire le juif le plus assimilé apparemment que l'on pourrait prendre pour le pharaon lui-même, selon l'expression de la Torah, qui Kamochat et Pharo, c'est lui qui diagnostique que sa propre tentative, c'est la perte de l'identité d'Israël, c'est lui qui y met fin et déclenche le retour. Je pense que c'est bien, c'est clair. Et alors, cette génération-là, dans notre temps, reproduit le schéma d'identité de Rachel, la matrice des engendrements dans l'exil, qui disparaît au moment de la fin de l'exil, qui engendre Benjamin qu'elle avait conçu de l'exil dans la plus grande douleur, et c'est l'enfant de la plus grande force, Ben-Oni, à les deux sens, et cela arrive à la fin des temps de l'exil. Je crois qu'il s'agit très clairement de la génération des fondateurs d'Israël, qui sont sortis de la plus grande catastrophe de la mort de Rachel, la Shoah, et qui ont fondé dans la plus grande force le pays d'Israël. Donc c'est bien clair. Par conséquent, l'identité de Benjamin a déjà, dès l'origine, une place considérable dans ce qui est en question, dans ce problème de non-unité des frères entre Joseph et Judas. Au premier stade, c'est Joseph qui réussit à faire descendre Benjamin chez lui. Et finalement, une déconnexion de toute la famille de Jacob et de ses enfants avec Eretz Israël, avec le pays de la promesse, enfin le pays de plus que la promesse, avec tout le projet d'identité, et qui commence avec l'histoire d'Abraham. Ça va durer 210 ans de blackout, où entre la fin du livre de la Genèse et le début du livre de l'Exode, il n'y a aucune parole prophétique, c'est la nuit, c'est déconnexion complète. On a rejoint Joseph, on est perdu dans la nuit. On est des étoiles dans la nuit, mais c'est la nuit. Vous rappelez le rêve de Joseph. C'est donc important de voir là quel est l'enjeu. Lorsque Binyamin rejoint Joseph, il n'y a plus de Eretz Israël. Et lorsque Binyamin rejoint Juda, il n'y a plus de diaspora. C'est vrai ? Alors tout ça, dans notre temps contemporain, est en cours. Mais il y a déjà un seuil qui a été traversé. Binyamin est né. Il est né exactement comme l'explique Rachid de la naissance de Binyamin. Il est né de la plus grande souffrance, dans la plus grande force, à la fin des temps de l'exil, en Eretz Israël. Conçu à Vienne, mais né à Jérusalem. Vous voyez ce que je dis ? Non, c'était à Bâle, mon frère. Enfin, Bâle et Paquet, mon chapeau. Et voilà donc pour cette identité. J'ai écrit une remarque qui m'a beaucoup frappé. Je ne sais pas si elle est encore valable maintenant, dans ces dernières années récentes. Une remarque qui m'a beaucoup frappé quand je vivais en diaspora. C'est qu'on pouvait retrouver ce profil de l'identité de Benjamin au niveau de la communauté juive, dans ce qu'on appelle le mouvement de jeunesse, tout simplement. Or, il est bien évident que le mouvement de jeunesse juif, en tant que tel, avait opté pour Judas contre Joseph. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est-à-dire, si on essaie d'analyser, il y aurait peut-être une thèse à faire à ce sujet, mais je ne sais plus si c'est valable récemment. En tout cas, c'est l'expérience qui m'a été très claire pendant plus de 35 ans. Peut-être c'est plus valable aujourd'hui, d'ailleurs, mais si je fais le profil des grands mouvements de jeunesse que j'ai connus, surtout les mouvements qui sont en France, mais c'est très à la mode dans les autres pays, bien, tout le folklore mouvement de jeunesse est un folklore bleu et blanc. Vous savez, tout se passe comme si Benjamin de notre histoire, de notre temps, a choisi pour Judas, c'est-à-dire l'Église d'Israël, et pas du tout pour Joseph. Il n'y a aucun de mouvement de jeunesse militant pour la diaspora. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit là, en diaspora même. Vous entrez dans n'importe quel mouvement de jeunesse, ça n'existe que parce qu'on parle d'Israël. On ne parle pas du consistoire dans le mouvement de jeunesse.
Oui, parce que ça serait plus tard pour les institutions de diaspora parlent d'Israël.
Peut-être pas de la même façon, parce que les mouvements de jeunesse, eux, ils y croient. Je ne crois pas que ce soit exactement de la même façon. voilà donc pour ce point. Alors, je vais prendre un deuxième sujet, mais est-ce que vous avez des questions là-dessus jusqu'à présent?
Une chance diagnostiquée pour Yordin, et la Yordin, comme il y a quotidiennement, qui est un assis.
Vous avez compris la question.
Benjamin.
La question que vous avez compris, c'est qu'aujourd'hui nous avons un phénomène en Israël, c'est que parmi, je ne sais pas, eux-mêmes, en tout cas des descendants des fondateurs du pays, qui font la Yerida. Eh bien, je dirais deux choses à ce sujet. Vous avez compris le problème. Alors,
l'homme,
ou là où Ashlich, il y a pas trop de problème. Je voudrais préciser, il y a, je suppose, 500 000 Israéliens à l'étranger. Et puis, mais parmi ces 500 000 Israéliens, tous n'étaient pas de la génération Benjamin, je veux dire les fondateurs. Mais il n'y a pas de doute que depuis la guerre des six jours, je crois que c'est perfectible, aussi des fondateurs de Kibbutzim eux-mêmes, des enfants de Kibbutzim, des Ben Ami Yazdin, des fils des fondateurs qui font leur Yerida. D'abord, je ne sais pas si une Yerida est définitive. C'est notre problème. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que dans tous ces mouvements qui touchent l'histoire d'une collectivité, il y a des temps de tri. C'est pas magique, ça se fait pas de façon magique. Chacun a une case préétablie. C'est clair ce que j'ai dit. Il y a un bureau qui se fait. Par exemple, dans les programmes des écoles israéliennes, on apprend de façon très détaillée la première alia, la deuxième alia, la troisième alia, etc. Il n'en est resté qu'une poignée. Par exemple, des bidous, par exemple, vraiment une poignée est restée. Alors que l'alia massive des Yéménites, personne n'en parle, un petit paragraphe, on ne sait pas où. Okay. Eux sont restés, presque tous. Mais l'alia des Marocains, l'alia des Top. Mais donc ça c'est notre problème, c'est un problème du Bissot d'Arrivée. Mais la première chose que je veux dire, c'est que ce genre d'événement, lorsqu'il touche une collectivité, eh bien, il y a un tri, il y a un birour qui se fait, peut-on dire ça en français, birour. C'est mis en jeu, mais c'est pas clair où ça va. Alors finalement, ça peut ne pas aller. Est-ce que c'est clair? Je crois que c'est très important de cela. Nous avons une règle catastrophique du cinquième qui réussit. Lorsque cinq cinquièmes sont mis en jeu dans une aventure, il y a un cinquième qui réussit. Donc, c'est clair. C'est la deuxième chose. C'est que si on a bien suivi notre schéma, lorsque Benjamin rejoint Judas, alors c'est lui, Eretz Israël. Mais lorsque Benjamin n'a pas vraiment rejoint Judas, il fait sa Yerida, ça arrive d'ailleurs. On est qui descend du pays? Pas ceux qui ont rejoint la Torah, descendent du pays. Ceux qui ont rejoint la Torah ne descendent pas. Je pense que c'est ça. Ça va.
Mais si c'est Benjamin, il va tout.
Bah.
À Avalé, deixa eu ter-te tomar uma madeira de hortinho e vinha com o que ele é zero.
Que nada, ainda não. De toda façon, je ne pense pas que le phénomène de la Hérida soit tellement catastrophique pour l'histoire du peuple, pour l'économie du pays, c'est catastrophique, mais pour l'histoire du peuple, parce que finalement c'est la vraie diaspora d'Israël. Ça c'est un autre problème que je vais signaler tout en passant. Il y a un grand malentendu entre Israël et la diaspora. C'est que la diaspora se prend pour la diaspora d'Israël. Et elle s'y prend avec une naïveté sincère, très, très profondément sincère. En réalité, il s'agit de la diaspora du Baït Chéni détruit par les Romains il y a 2000 ans, qui se trouve contemporaine du Baït Shlichi, dont nous sommes au commencement, et qui se dénomme diaspora d'Israël, alors qu'elle est la suite de la diaspora du Baït Shlichi, solidaire d'Israël d'aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Mais que la diaspora réelle d'Israël, c'est la Yéhudim. C'est un problème en soi. C'est un problème en soi. Et je pense qu'il y a là un problème d'identification qui est très important. Je veux dire que, à la génération de 48, à la fondation de l'État, le peuple juif pouvait dire, le peuple juif de la diaspora pouvait dire légitimement que c'est son État, parce que c'est lui qui l'a fait. Le peuple juif a fait l'État d'Israël en 48, c'est clair. Mais déjà, la génération des fils, c'est plus vrai. Les fils des contemporains de la fondation de l'État d'Israël, les juifs de la diaspora, ne sont pas du tout ceux de qui sont sortis les fondateurs de l'État d'Israël. C'était vrai pour la génération de la terre. Vous comprenez ce que je veux dire là? Et de là vient cette espèce de malentendu, mais que la génération des fils en diaspora perçoit de façon très aiguë. Vous avez compris ce que je veux dire, la génération, disons la deuxième génération après 48, ne se considère pas du tout comme étant la diaspora d'Israël. C'était la génération des parents qui se considérait comme étant la diaspora d'Israël. Mais on continue à dire cela par habitude de langage. Je veux dire qu'il y a un problème de régularisation d'identité dans la diaspora, pas en Israël. C'est-à-dire, je pense que c'est un problème différent que le problème de la Aliya proprement parlé. Parce que bien entendu, l'objectif de toute cette histoire, c'est de quitter l'Égypte et de faire la Aliya. C'est bien sûr. Mais pour voir les choses dans l'existence, le problème de la Aliya est un problème extrêmement complexe, étant donné la nature des obstacles qui s'y introduit. Mais derrière ce problème de la Aliya, il y a un problème beaucoup plus important, c'est le problème de l'identification. C'est-à-dire, si vraiment un juif se considère comme en diaspora d'Israël, il y a une régularisation à faire. Même si elle prend du temps, l'identité est mise à l'abri. Alors ce problème, les Yéhudim ne l'ont pas. Ce sont vraiment des Israéliens de l'étranger. Ils sont vraiment des Israéliens en diaspora. Beaucoup plus que les Juifs qui n'ont jamais fait leur Aliya. Je pense que c'est bien clair. Enfin, je ne suis pas en train de donner un conseil aux Juifs de diaspora de venir faire du tourisme pour redescendre de cette sorte d'être Yéhudim. Ce n'est pas du tout ça. Mais vous comprenez un peu la différence de l'identité. Alors je crois que, décidément, Benjamin a choisi pour Judas. Il n'y a pas de doute. Je veux dire là. C'est très frappant, ce pays a été fondé par un mouvement de Genève. Le mouvement sioniste, un mouvement de Genève. D'ailleurs, on s'en ressent encore. Et le mouvement de Genève, c'est un mouvement de révolte contre l'identité antérieure. L'identité juive antérieure était à l'indice Joseph. Le mouvement de Genève s'est révolté contre et a fondé l'État d'Israël, c'est-à-dire l'État d'indice Judas. Et c'est irréversible. À l'échelle individuelle, il y a un tri qui se fait. Mais je crois que là, on a mis en évidence un principe important. On peut étudier, je fais partie d'une commission à la Mahalaket HaAliya, et nous avons des statistiques extrêmement précises. Il y a une statistique qui est toujours mise un peu de côté, qu'on ne veut pas étudier, mais que je ne veux pas pour les faire étudier, c'est cela. C'est la proportion de sionistes léonines qui descend. Il n'y en a pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? De sionistes. D'Atim Léonim, qui descendent des sionistes, pas religieux. Mais les sionistes religieux ne descendent pas. Les religieux non sioniques descendent aussi, mais moins que les autres. Par conséquent, lorsque Benjamin choisit Judas vraiment, c'est irréversible. Je pense que c'est ça.
Parce que ton avis de l'identité de Benjamin, est-ce que c'est juste de penser, d'essayer de comprendre, est-ce qu'il va falloir faire le chemin de la tribu de Benjamin après, par exemple, l'histoire avec le Pilegrim Berlin?
Non, on ne va pas aller jusque-là. Mais il n'y a pas de doute qu'il y a quelque chose de cet ordre. Que Benjamin, lorsque Benjamin rejoint Judas, il le rejoint avec une espèce de cananéisme qu'on retrouve en philosophie. Alors, j'essaie de donner, plus qu'en filigrane, une espèce d'analyse, de projection optimiste de ce récit. C'est-à-dire, voilà ce qui est en train de se passer. Pendant que ça se passe, tous les chas de shalom sont possibles. On pourrait même dire tous les chas de shalom. Tout est possible. Mais surtout, oui, là en particulier, le conflit de chaque tendance, lorsqu'elles s'opposent l'une à l'autre, nous avons dans d'autres cours étudier le problème de cette opposition des deux, des deux messianités dans le temps contemporain, à travers l'enseignement du Rav Kook, l'esprit qu'il a donné à la mort de Herzl. Nous avons étudié ça ici, je crois. Non, il me serait la peine qu'on l'étudie. On voit deux identités principales parmi les autres, parce que chacune des tribus a sa vocation propre dans cette unité commune, Joseph d'un côté et Judas de l'autre, lorsqu'ils sont isolés l'un de l'autre. Et encore une fois, dans leur équation de division du travail, elle finalement s'oppose l'un à l'autre. Il y a un ordre dans le récit. C'est Joseph qui, le premier, reconnaît ses frères. Ça veut dire que c'est la tendance Joseph qui d'abord diagnostique que l'autre est aussi Israël. Et je crois qu'on est à peu près à la fin de ce stade. La deuxième tendance, Judas, n'a pas encore reconnu Joseph, mais ça commence un peu à venir. Mais c'est la première est acquise. C'est clair ce que je dis là. Pour un sioniste non religieux, un juif religieux, c'est quand même un juif. Tandis que pour un juif religieux, un juif sioniste non religieux, c'est quand même un juif. Non, enfin, pas. Vous avez compris ce que je veux dire. Et on voit, c'est exactement l'ordre du récit. C'est que Joseph est bien obligé de reconnaître ses frères comme étant ses frères. Mais que chez ses frères, il y a une réticence jusqu'au bout. Mais finalement, ils finissent par se reconnaître. Ce que je voulais mettre en évidence, c'est cela. C'est le facteur Benjamin dans cette histoire. Pourquoi? Indépendamment du problème lui-même. Parce que ça nous éclaire ce qu'il pouvait y avoir d'invraisemblance, de merveilleux dans le récit. Pourquoi dans ce récit de l'opposition entre Joseph et ses frères, c'était Benjamin précisément qui était mangé. C'est-à-dire bien au-delà de ce qu'on pouvait établir avec vérité d'ailleurs, légitimement, comme intérêt personnel de Joseph d'avoir Benjamin avec lui, il y a quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus profond. Joseph tient à ce que l'adhésion de ses frères à sa vocation de la messianité soit entière, sans réticence. Nous avons là les éléments du problème. Si c'est la diaspora qu'il faut jouer, ça c'est Joseph, alors on va la jouer totalement. On ne peut pas la jouer avec une arrière-pensée. Et de la même manière, si c'est Eric Israël qu'il faut jouer, il faut le jouer totalement, et on condamne Joseph à mort. Vous avez compris les éléments du cours. Voilà, pour le premier thème. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet?
Comme fonction, c'est un mérite de Torah, de l'Ita Arif, de Torah Pena Haron. Aval Mah Trouma Shelo, במיתות, יש לנו יוסף גלות בלידת התורה, מה עושה בנימין? הוא מאחד? במה? מה התכונה הפנימית? מה פנימיותו של בנימין?
לא, זה עניין אחר. אני לא זוכר בדיוק איזה אלכסון במידות בנימין.
לא במידות, תראה את זה, מה תפקידו בעצם? מי הוא בנימין?
מי הוא בנימין? Dafka, je traduis. C'est-à-dire, dans l'ensemble de l'identité des tribus, d'après notre thème, le profil de l'identité de Benjamin est très précis. C'est celui qui est né en Eretz Israël. Par conséquent, le profil de diagnostic d'analogie que nous avons, c'est vraiment ce qu'on appelle en hébreu les tzavarim. C'est très clair. Et ça veut dire, c'est celui qui porte en lui la résurrection de l'identité hébraïque dégagée de l'identité galutique, de l'identité de Galut. Je dirais presque en poussant les choses à la limite, de la même manière qu'au niveau d'Abraham. Abraham est Abraham, que lorsqu'il a dégagé son identité hébraïque de l'identité araméenne, au niveau contemporain, Benjamin est vraiment Benjamin, que lorsqu'il a dégagé son identité hébraïque de l'identité juive, elle-même, qui est, vous avez compris la comparaison, araméen hébreu, juif israélien. C'est bien clair.
Qu'est-ce que ça veut dire,
Ça c'est après ce que nous trouvons dans les bénédictions de Jacob. Je vais d'abord répondre à cette première question. Il n'y a pas de doute que ce phénomène est apparu. que lorsque le juif revenu de Galoute, mais dans la vocation uniquement de fondation de l'État, s'est dégagé de l'identité juive, eh bien, et là nous avons le profil du savoir classique, il s'est dégagé non seulement de l'identité juive, du statut de Galoute, mais il s'est dégagé aussi, pour moi, provisoirement, mais c'est une parenthèse que j'ajoute, et il s'est dégagé des valeurs du judaïsme. Alors il apparaît, vous avez l'épisode de Spiegelberg, c'est-à-dire comme étant en porte-à-faux avec les valeurs de Judas, dont il est en réalité le serviteur, puisqu'il a quitté Joseph pour Judas. Et je crois que c'est cela. Nous sommes dans une génération où toutes ces manières d'être juif et israélien à différents degrés sont en pêle-mêle contemporaines. Il y a une différence de nature entre ceux qui sont nés du pays, bien que conçus dans l'exil, et ceux qui sont venus de l'exil dans le pays. Je pense que c'est bien clair. Alors c'est cela le profil de Benjamin, et il n'y a pas de doute que la faute du pays, c'est ce Benjamin-là. Et elle est sortie de la plus grande douleur au moment où la matrice de l'exil, la mise au monde, a disparu. Là, j'ajoute une petite parenthèse pour éclairer ce que je viens de dire. Parce que ça peut paraître contradictoire avec la réalité. En réalité, pas. Je suis en train de vous dire qu'avec l'apparition de l'État d'Israël, la diaspora a disparu. Et pourtant, la diaspora, c'est le 4/5 du peuple juif. Et ça semble être bien vivant. Je dis bien ça semble. Okay. Alors, écoutez, je vais essayer de vous l'indiquer. Depuis les événements de la Première Guerre mondiale jusqu'à nous, mais depuis les événements de la Première Guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale, c'est l'apparition de Benjamin dans notre chemin. C'est la déclaration de Balfour, 1917, et c'est là que ça commence. Et vraiment, ça se prépare avant. Si Benjamin était déjà là, mais enfin, il est vraiment là à partir de 1917. Toutes les diasporas anciennes ont été détruites. Et aujourd'hui, il ne se trouve dans ce qu'on appelle la diaspora que des rassemblements de rescapés d'anciennes diasporas détruites. Il n'y a aucune diaspora originelle dans la diaspora contemporaine. Il y a un phénomène de population qui cherche son identité, mais les diasporotes anciennes, si j'ose dire, c'est une barbarie, une diaspora c'est un mot grec populaire, donc on ne peut pas dire diasporotes, les diasporas anciennes ont disparu toutes, avec des petites exceptions folkloriques, la synagogue portugaise de New York, de Montréal, c'est du folklore. Ça, oui. Est-ce que c'est clair? Il n'existe pas, par exemple, de judaïsme français. Il existe en France. Mais au Maroc, c'est en train de finir. Vous avez visité le Maroc ces temps-ci? Bon, moi aussi. Alors, on peut confronter nos expériences. C'est une communauté qui sait qu'elle est sur les valises. Et qu'elle fermera les valises ou elle ne les fermera pas, je ne sais pas si elle aura le temps. Quand le roi Hassan II perdra le pouvoir, s'il le perd, et il n'y a plus aucun espoir. C'est encore ce phénomène de retard. En réalité, la communauté marocaine a quitté le Maroc. Mais il y a des commerçants juifs au Maroc. Il n'y a plus de communauté marocaine. J'ai connu personnellement la communauté marocaine avant, quand elle existait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Et ils se connaissent comme ça, en voyage. Enfin, déjà en voyage. Qu'est-ce qui reste? Donnez-moi un exemple d'une ancienne diaspora qui n'aurait pas été détruite. Ça a été détruit par les événements de la Première Guerre mondiale, par les événements malheureusement beaucoup plus graves de la Deuxième Guerre mondiale, par le phénomène de la décolonisation qui a fait que toutes les communautés installées en pays d'islam ont disparu comme telles et se retrouvent en pays ashkénaz d'ailleurs, ou en Israël, mais la plupart du temps en pays ashkénaz. Ça veut dire que nous avons une espèce de diaspora illusoire, secondarisée, fantomatique, folklorique, mais la véritable identité de diaspora légitime a disparu. Je pense que j'ai schématisé, bien entendu, mais je pense que c'est toujours clair. Et le problème d'identité contemporaine, c'est pas du tout pour Israël. Pour Israël, c'est un problème d'effectuation de cette identité. C'est un problème de difficulté d'être, mais c'est pas un problème de définition d'être. Le problème de définition d'être, c'est le problème de la diaspora. Et je crois personnellement, c'est ce que je contribue à dire chaque fois que je suis en relation avec ces problèmes-là, c'est ceci, c'est qu'il y a une espèce de panique à la Aliya dans la diaspora qui, par une espèce de fausse pudeur inversée, grève le problème d'identification. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. Lorsqu'on leur réclame de s'identifier, ils entendent « faites votre Aliya tout de suite ». Alors non, on ne fait pas la Aliya, comment ça se dit? Non, on n'est pas diaspora d'Israël, comme il faudrait. On est diaspora et Israël, c'est autre chose. Vous avez compris le problème. En réalité, je crois que le problème d'identification est plus urgent que celui de la ralia. Parce que la ralia, de toutes les façons, ceux qui la font, la font. Le problème est de savoir s'ils la font en catastrophe ou pas en catastrophe. Vous comprenez ce que je veux dire? D'ailleurs, c'était le problème de tous les Israéliens. Tous les Israéliens qui ont fait leur ralia, avant de la faire, ils ne l'avaient pas faite. C'est quand ça leur est arrivé, quand ça leur est arrivé. Donc il y a de l'espoir pour tout le monde. Je pense que c'est bien. Mais c'est surtout un problème d'identification. Je vais citer Shalom Bach. Vous connaissez Shalom Bach, hein? Vous savez qui c'est Shalom Bach? On ne peut pas le suspecter de ne pas être pieux. Hein? Un jour, il était à un séminaire en France, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et puis il y a un juif de cette idéologie diaspora qui disait, et puis de toutes les façons, moi j'ai rien à voir avec la religion juive, je fais partie du peuple juif de diaspora, et par conséquent, pourquoi irais-je en Eretz Israël? Alors Shalom Bach lui a dit, écoutez, si ça vous plaît de manger du porc, eh bien mangez du porc le jour de Kippour, mais venez le faire en Eretz Israël. Vous entendez cette formule? Ça veut dire que, bien évidemment, il y a là un problème à deux niveaux différents. C'est lorsqu'un juif de diaspora s'identifie vraiment par rapport à Israël, le problème de la Halia a déjà trouvé sa solution. Bon, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, mais quand même, apparemment. Alors, je tenais quand même à faire cette précision. Il me semble qu'il y a une confusion entre deux notions qu'il faut séparer, la solidarité de tous les juifs, qu'ils soient de diaspora ou d'Israël, on est dans la même histoire. Je ne sais pas pour encore combien longtemps, mais c'est indéniable. Il y a une solidarité indéniable dans les deux sens. Vous pouvez analyser ça historiquement, ça idée au débat, mais c'est finalement un phénomène irréversible. Le monde entier nous y oblige. Les Juifs et les Israéliens sont dans le même bateau. Je pense que c'est grosso modo clair. Et cette solidarité d'ailleurs joue à différents niveaux. Et d'autre part, il y a l'identification. Alors, au niveau de l'identité, c'est déjà deux identités différentes. Et je crois que ce qui peut contribuer à élucider ce problème, c'est cet effort de lucidité de la part de la diaspora qui consisterait à se connaître comme elle est, c'est-à-dire la diaspora du Baït Sheni contemporaine du Baït Shlishi. Est-ce que c'est bien clair ce que je dis là? Autrement, il y a une espèce de phénomène réciproque, de parasitisme très différent, très difficilement supportable. Parce que finalement, je vais essayer de vous décrire ce phénomène de parasitisme. Les juifs de diaspora viennent en pèlerinage dans l'État d'Israël, plus en Terre Sainte, au temps des Turcs. C'est pas la même chose. Vous comprenez que, et lorsqu'on se définit comme juif de diaspora, séparé de l'histoire d'Israël israélienne, alors on vient ici en parasite, ça c'était bien évidemment, puisqu'on n'aurait pas pu y venir s'il n'y avait pas eu l'État d'Israël. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Et inversement, les dons qu'on envoie à Israël, ça fait des Israéliens des parasites de la diaspora. Donc je crois qu'il y aurait intérêt à distinguer définitivement ces deux niveaux. Surtout que Destrichim partent dans les pays francophones, on me demande de leur parler de mon expérience de ce genre de juridique, le mot n'étant pas négatif, et je l'avais essentiellement cela. Au niveau de la solidarité, il faut exploiter toutes les possibilités de solidarité parce qu'elle est sincère, quelles que soient les apparences. Si, je ne sais pas, moi, l'organisation de tourisme pour les fêtes de Noël, jusque-là, okay. Et quand ils arrivent ici, ils s'aperçoivent que c'est Hanouka. Ça arrive. Mais au niveau de l'identité, il n'y a aucun compromis possible. On est où Joseph ou Judas dans ce problème. Il n'y a aucun compromis possible. Parce qu'actuellement, en voyant les choses dans leur limite propre, l'un est exclusif de l'autre. C'est pourquoi les Israéliens ont un travail extrêmement difficile. Ils sont obligés, avec les organisations, de jouer le clavier de la solidarité, mais au niveau d'un travail éducatif, de mener la guerre d'identification. Et leurs principaux ennemis, enfin leurs principaux obstacles, disons, sont des éducateurs juifs de la diaspora. C'est bien évident. Vous avez compris le drame du problème. C'est exactement ce problème-là. Lorsque Joseph est Joseph, il n'est que ça. Ça veut dire quoi? Eh bien, il est au service de l'État français, au service de. En tant que juif, il est resté hébreu d'Élysée. D'Élysée, mais hébreu. Et je pense que c'est ça. Mais j'ai moi-même vécu cela à l'échelle individuelle jusqu'au moment où je me suis rendu compte à quel point c'était une histoire de fou. Est-ce que vous voulez je crois, en fond, ce qui m'a. Non, je ne veux pas parler de mon expérience personnelle, mais il faut la multiplier par. Je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas combien. C'est l'hébreu. Le jour où je me suis rendu compte que l'hébreu, c'est pas le français, et que le français, c'est pas l'hébreu, Je me suis rendu compte que c'était une histoire impossible. C'est clair, c'est bien, c'est clair. Et je dis, non. Comment dire, je me suis aperçu de cela, imaginez l'énormité, que la Bible était en hébreu et pas en français. Voilà, c'est plus clair. Et ça veut dire que ce qui a sauvé le rêveur de notre histoire, c'est qu'il n'a pas cessé de rêver en hébreu. On dit de lui, lorsqu'on parle de lui au pharaon, Nara, Ivri, un hébreu. Vous avez compris le. Pourquoi? Parce qu'on parle français. Ça, vous savez très bien que c'est pour vous hébraïser. Je vais vous signaler en passant que les cours en hébreu recommenceront au deuxième trimestre. Bien. Où j'étais avant de parler du trimestre?
Il y a déjà Ben Israël en hébreu.
Oui, il y en a déjà. Enfin, je voulais dire de lui. J'ai entendu à la télévision il y a quelques jours, Amos Kenan, je vous ai dit quelque chose. Bon, lui, c'est vraiment un Benjamin, 100%. Bon. Et alors, il a dit ceci, il habitait, je ne sais pas, 15 ans en France, Paris, c'est son propre. Et puis, finalement, pourquoi il est revenu, quand il s'est aperçu qu'il risquait de rêver en français. Alors il est revenu. C'est beau comme rêve. Il a dit ça très joliment. Il a dit j'avais peur de faire des mauvais rêves. Enfin, des vrais rêves, chez lui, c'est en hébreu. Alors il voulait faire des bons rêves. Coquetterie. Ce qu'il voulait dire, c'était beaucoup plus simple. Il s'est senti devenir, non pas juif de Galoute, mais français. On rêve dans la langue de son âme. Je ne sais pas comment dire ça. Il dit ça souvent aux élèves. Le jour où il commence à rêver en hébreu, c'est gagné. C'est pas important si c'est en noir et blanc ou si c'est en couleur. Ça a un autre sens. Bon, vous avez, je crois, une autre question.
Pourquoi fallait-il que Raphaël disparaisse avec l'arrivée de...
Vous avez la réponse dans la question. À partir du moment où on a compris que Raphaël, c'est la matrice de l'exil, alors la diaspora disparaît, c'est ce dont j'ai parlé précédemment, la diaspora disparaît en arrivant en Israël. Elle a été capable de porter en son sein, de concevoir Benjamin, et c'est Benjamin qui est finalement la dernière chance d'Israël, parce que c'est Benjamin qui fait que le peuple juif a un pire Israël, je ne sais pas comment il fait autrement. Et puis, en mettant au monde Benjamin, c'est pas. Voilà, c'est pourquoi j'ai tenu à donner un peu ce coup de projecteur, qu'il ne faut pas se tromper sur l'illusion diasporique contemporaine. Ce sont des communautés très artificielles, indexées sur des cités étrangères. Ce n'est plus, et ça ne peut plus être la ville juive que nous avons connue avant l'État d'Israël. Nous avons connu la ville juive de diaspora. Elle n'existe plus. Il y a aujourd'hui des communautés juives qui sont des associations de tout ce que vous voulez, d'intérêts mis en commun, il y a des intérêts nobles, okay, greffés sur une cité étrangère. C'est plus la communauté juive de papa, enfin de grand-papa, de Charlemagne, je ne sais pas comment on dit ça, en fait, je dis, d'avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça a disparu partout, même à Brooklyn et même ailleurs, c'est devenu artificiel. Comment être russe en américain? C'est ça Brooklyn. Je vous rappelle juif. Comment être patriote sfarad marakchi à Sarcelles? C'est pas possible, ça n'existe plus. Voilà ce que je veux dire, grosso modo. Vous allez rencontrer ça et là le dernier des Mohicans, bien sûr, il y en a partout. Mais je crois que c'est une génération qui tend à disparaître. J'en ai connu un, deux en France, qui étaient vraiment des hommes juifs de la diaspora de France, d'avant. Okay. Mais finalement, j'ai assisté à leur fin. Ils ont existé, et je les ai vus, ils ont connu, mais ils n'existent plus. Tous leurs enfants sont en Israël. Je peux vous citer des noms, des noms très nobles d'ailleurs. En fait, c'est pas la peine de citer des noms. Alors maintenant, de notre point de vue, je vais reprendre votre question. Lorsque Jacob donne ses dernières consignes à Joseph, il emploie l'expression pour dire, lorsqu'il parle de la mort de Rachel, dit « Meta alai Rachel ». Littéralement, c'est une expression, un idiome hébraïque, mais ça vient de ce verset. On dit qu'on a perdu quelqu'un, on dit littéralement qu'il est mort sur, Meta alai Rachel, je traduis, Rachel est morte sur moi, c'est-à-dire elle est morte pour moi. Là, la Gemara établit un enseignement que je donne pour lui-même, c'est qu'il n'y a que le mari qui sait ce que ça veut dire qu'il a perdu sa femme. C'est ce que Jacob dit, « Meta alai Rachel ». Les autres, ils sont en deuil, mais c'est lui qui l'a perdu. le Midrash explique « alai » à cause de moi. « Meta alai Rachel ». Et en effet, le Midrash explique que Jacob, et bien que nous sommes dans le temps où la Torah n'est pas encore révélée comme règle d'obligation, Jacob a violé une règle de la Torah, puisqu'il a épousé deux sœurs. On sait que c'est malgré lui, mais malgré tout, il a dû violer un ordre de la Torah que les patriarches vivaient dans leur identité profonde, avant le temps même où elle est donnée en obligation. Puis d'ailleurs, la Torah de la descendance des patriarches, c'est l'identité des patriarches retransmise en obligation sur la descendance. Je dis ça trop rapidement, mais je pense que vous l'avez bien saisi. La manière d'être des patriarches nous est donnée en Torah sous forme d'obligation. C'est bien clair ? Et là, étant donné que c'est au moment où il a épousé Rachel qu'il était en faute, par conséquent, dès que Rachel arrive dans le pays d'Israël, elle disparaît. Parce que tant qu'ils sont en dehors du pays d'Israël, la Torah n'a pas force de loi. Donc, en route là, c'était possible par définition. Puis, qu'est-ce que ça voulait dire avoir deux femmes pour Jacob? Avoir celle qui est la matrice de l'Israël et celle qui était la matrice de la Galoute. Ça veut dire, donc, vous avez une deuxième approche de votre question. Ça veut dire, dès que l'identité Jacob arrive en Eretz Israël, Rachel disparaît. Et c'est ce que nous vivons de notre temps. Et encore une fois, je reprends un peu l'analyse de tout à l'heure. Je crois que les Juifs du diaspora le pressentent très, très, très profondément. Parfois, pas seulement inconsciemment, ça explique la véhémence de leur discours lorsqu'ils parlent de l'identité juive par rapport à Israël. Il y a ici une espèce d'expérience psychologique assez simple. Le fait que il y a une telle interpellation d'identité face à Israël, ça exprime une gêne terrible au niveau de l'identité. Ça veut dire, dès que le peuple juif est arrivé ici, il y a la fonction diaspora du peuple juif. Et je crois que, pour bien comprendre cela, il faut faire la distinction que j'ai signalée tout à l'heure. Au niveau de la génération des fondateurs de l'État d'Israël, eh bien c'est le peuple juif qui a fondé l'État d'Israël. À ce niveau-là, si vous voulez, il y a à imputer de manière positive le fait que le peuple juif a fondé l'État d'Israël. C'est du peuple juif qui est sorti Benjamin. C'est Rachel, de Rachel qui est sorti Benjamin. Mais de la génération des fils, la deuxième génération après 48, Rachel a disparu. J'ai dit une fois une blague, puisque nous sommes dans les festivités de Bethléem. Enfin, je ne sais pas une blague, Tali. Il y a un midrash qui se demande pourquoi Rachel a été enterrée, non pas dans la caverne de Marpella, mais sur le chemin de l'exil, dit le texte. Le midrash dit, c'est pour qu'elle puisse prier pour ses enfants de la Galoute. Rachel étant le principe des Juifs de la Galoute. Et alors, nous avons énormément de Juifs en diaspora qui demandent qu'on rende Bethléem à la Jordanie, parce qu'ils n'ont plus de Rachel qui prie pour eux. Maintenant, Rachel est en Eretz Israël, en rêvant la Bédicat. Je crois que c'est pas faux, tout cela. Il y a un danger d'identité qui pèse sur la diaspora qui est considérable. La dernière déclaration du grand rabbin français à la télévision israélienne, c'était une espèce de cri d'angoisse devant le nombre des mariages mixtes, le petit nombre des scolarisés, etc. etc. Bon. Voilà donc le problème. Alors j'espère quand même avoir contribué un peu plus, avoir mis en évidence l'importance du moment Benjamin dans ce conflit. C'est là où Benjamin se trouve que l'avenir d'Israël passe. C'est-à-dire, Judas sans Benjamin n'a pas le Bétamigdash. C'est Judas qui est la force du Bétamigdash. Mais il faut que ce soit chez Benjamin. C'est ou alors, je n'ai peut-être pas compris ta question. Retrouve ça. À toi, je parle. Oui, c'est là. C'est par le fait que... là c'est un terme que vous avez entendu la question Jacob, lorsque Jacob a reconnu Joseph et l'a béni, il a adopté les enfants de Joseph dans la formule Kirouben, Veshimon et Yuli. C'est-à-dire ses deux enfants, Ephraim et Menaché. Ils sont nés dans l'exil. qui avait une apparence égyptienne. Et lorsque Joseph lui présente, Jacob ne connaît pas, il demande qui c'est ça. Des juifs sans barbe. Et alors, ou avec des barbes pas juives. Et alors, il dit, ben c'est les enfants que j'ai eus ici. Alors, Jacob les adore. Et il dit, ils seront pour moi comme Réhouven, comme mes propres enfants. Ce qui se passe là, c'est un problème assez important que nous avons étudié d'autre part. C'est que pour que l'ensemble de l'identité d'Israël soit présente dans l'histoire, il faut qu'il y ait 13 tribus d'Israël. On est tellement habitué au chiffre 12 qu'on oublie qu'il s'agit de 13. 12 qui sont 13. Vous savez cela? C'est rattaché au fait que la valeur numérique du monde Echad, c'est 13 et pas 12. Vous verrez d'ailleurs, on n'a plus le temps maintenant, mais relisez les textes de la Sidra précédente. Lorsque les enfants de Jacob s'identifient devant Joseph la première fois, ils disent « Nous sommes 12 enfants du même homme et un qui a disparu. Echad est né. » C'est-à-dire, si vous enlevez le 1 de 13, il n'en reste que 12. Le 1 a disparu. S'il en manque un, l'unité n'est pas là. Et alors, je vous dirais, parenthèse dans la parenthèse, nous avons été tellement habitués à l'identité officielle du juif de diaspora, surtout dans les temps récents, après l'émancipation, on a défini cette identité comme une confession religieuse, qu'on s'est habitué à faire équivaloir l'identité juive, même quand on n'y participe pas de façon officielle. Je vous raconterai comment je l'ai vécu moi-même, dans mon expérience, de mes grandes jeunesses d'ailleurs, avec l'identité du juif religieux, voué à la vocation du Lévi. C'est-à-dire finalement, on avait réduit l'identité juive à la tribu de Lévi. C'est un peu dangereux ce que je dis là, ou bien c'est clair. C'est-à-dire, quand on parlait de la définition de l'identité juive, on voyait le Lévi. Je me rappelle, quand j'étais en classe, au lycée, enfant, nous étions peut-être deux dans tout le lycée, on avait 30 000 juifs dans la ville, à ne pas travailler le Shabbat, à ne pas aller à l'école le Shabbat. Alors, on parlait avec les autres juifs, on ne rappelle plus des détails des conversations qu'on avait, mais à ce sujet, pour eux, ça allait de soi. Elle dit, ah oui, mais toi, tu es un rabbin, qu'est-ce que vous avez, 11 ans et demi, ça veut dire, il faut être rabbin pour être juif, je ne sais pas si vous avez dit. Ça veut dire, à la limite, et d'ailleurs, on appelait rabbin, un juif qui savait la Neshama, il savait trois versions, la Torah. Je veux dire le degré d'assimilation auquel c'est arrivé. Donc, ça veut dire qu'à la limite, un juif, c'est un juif de la tribu de vie, pas de notre tribu. Qu'est-ce que la tribu de vie? C'est la tribu rabbinique, autant de dire. C'est clair. On était arrivé à cela. Je me rappelle du temps où, si on voulait étudier le judaïsme, il fallait aller à l'école rabbinique. Mais l'école rabbinique, c'est pour former un rabbin, c'est pas pour les étudier, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous comprenez plus? D'ailleurs, à l'école rabbinique, on formait des rabbins, mais il n'y a pas d'études à l'époque. Et en tout cas, pour finir, vous voyez un peuple formé que de rabbins. Donc on a restreint l'image de l'identité juive à l'identité du Lévite. C'est bien clair? Alors, c'est ce qui réclate de nos jours. Alors que la majorité des juifs ne s'identifiait pas personnellement avec l'image du Lévite, c'était leur définition officielle. Ça veut dire, on leur demandait qu'est-ce que c'est qu'être juif, ah, c'est faire partie de la religion juive, qui est la mienne dont je ne fais pas partie, qui est la mienne que je ne pratique pas. Je me souviens d'ailleurs, quand je me suis occupé des étudiants juifs en France, on avait un problème statutaire très, très difficile, parce que du point de vue constitutif, l'État français admettait une association d'étudiants catholiques, une association d'étudiants protestants et une association d'étudiants juifs. Et donc ça voulait dire pour l'État français, juif dans le sens de la conception. Or en réalité, les membres de cette association étaient en grande majorité des juifs pas du tout religieux. C'était la plupart du temps des immigrés d'Europe centrale et d'Europe orientale, juste après la Deuxième Guerre mondiale, sinon ils se seraient appelés israélites. Ils s'appelaient juifs. Les étudiants juifs de France. Alors qu'il y avait les terreurs israélites de France. Ça, c'était... Et là, eh bien, et ils percevaient eux-mêmes cette anomalie.